Bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité jusqu'à 13h, c'est l'un des meilleurs spécialistes des questions européennes et un acteur de premier plan de la Commission pour encore quelques mois. C'est lui que nous voulions entendre après ces élections pleines de surprises. La recomposition politique est en cours en France comme dans l'Union. À Bruxelles, une bataille importante et qui s'annonce passionnante à commencer pour savoir qui sera notamment le prochain président de la Commission européenne. On en parle avec le commissaire européen aux affaires économique, financière et fiscale, Pierre Moscovici, qui s'est installé avec nous dans le studio de Questions Politiques. Intervenez sur l'appli France Inter ou sur les réseaux avec le hashtag QuestionPol.
France Inter, Questions Politiques, Ali Badou.
Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de Questions Politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Virginie Malingre du journal Le Monde. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Pas si chiante, je vais le dire vulgairement, l'Union européenne, Pierre Moscovici. C'est l'image qu'en ont 500 millions de citoyens. Et puis finalement, l'Europe est pleine de surprises. Il y a des discussions, des batailles qui s'annoncent passionnantes.
Mais vous me faites pas de mal. Ça fait des années que je le dis. Et ça fait des années que je dis que les médias devraient accorder plus de place à l'Europe, qu'on devrait en parler davantage. Je ferai une remarque. Il y a eu, la semaine dernière, 50% de participation, un peu plus en France. Mm-hmm. C'est plus qu'aux élections législatives.
Pour la première fois dans l'histoire.
Et au deuxième tour. Et donc, c'est dire qu'il y a un vrai enjeu, c'est dire que les députés européens qui ont été élus ont une vraie légitimité. Et ça traduit quelque chose, ça traduit deux choses en réalité. La première, c'est que on a pris conscience que beaucoup de choses se passent à Bruxelles, à l'Europe plus généralement, ouais. Que les réponses aux grandes questions écologiques, climatiques, sociales, démocratiques, économiques sont européennes. Et puis la deuxième, c'est que ça attire la jeunesse.
Donc vous diriez qu'il y a un regain d'Europe là ou pas ?
Oui, ce sont des jeunes qui sont pour beaucoup allés voter la semaine dernière, qui délaissaient complètement les urnes. Assurément, en plus, il y a eu un sursaut. On attendait une percée populiste ou nationaliste ou d'extrême droite. Elle s'est produite, mais elle a été beaucoup plus contenue qu'on le pensait. Si vous regardez le Parlement européen, il y a 750 sièges.
On va en parler,
Pierre Moscovici. Il y a 510 qui sont détenus par des partis pro-européens. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Et je vous invite à en faire encore plus, à en parler encore plus.
J'en serais ravi.
Est-ce que finalement, c'est pas Emmanuel Macron qui, à la fois pendant la campagne électorale, en vantant les mérites de l'Europe, alors que tout le monde était extrêmement discret, et en se jetant dans la campagne à ses risques et périls, est-ce que c'est pas lui finalement qui a eu le mérite pour la première fois, alors que les politiques d'habitude ont tendance à dire que l'Europe, c'est la faute de l'Europe à chaque fois, est-ce qu'il c'est pas grâce à lui qu'il y a eu ce sursaut? C'est pour faire plaisir cette question.
Pierre Moscovici. Ça me fait ni plaisir ni déplaisir. La remarque que je faisais.
Il y avait un petit sourire narquois quand même. Pour les auditeurs, je le souligne.
Que, si vous voulez, mon sourire d'arcois était pour Nathalie Saint-Cric.
D'accord.
Parce que cette espèce d'obsession, comme si tout se passait à Paris, à l'Élysée.
Ah oui.
Non, les choses sont européennes. Et le surcroît de participation, il n'est pas français. Il est européen.
Même dans les pays de l'Est, où on vote traditionnellement très peu, il y a une hausse de la participation.
Emmanuel Macron y a contribué à sa façon, mais à mon avis, il y a plus longtemps, quand, dans la campagne présidentielle de 2017, il a, et c'est son mérite, remis l'Europe au centre du débat politique. Mais observons quand même que l'intérêt pour les élections européennes, il a cru partout. Et là, pour le coup, ce qui s'est passé en France, croyez-moi, à Varsovie, ou à Prague, ou à Londres, ou à Berlin, c'est pas ça qui a fait voter les gens. Donc, il y a cette conscience qui est une conscience continentale, que l'Europe est un projet vital, que c'est une question essentielle, et ça nous concerne tous.
Mais vous pensez finalement
aussi, mais pas que lui.
Vous pensez que la campagne justement a été de bon niveau et a incité les gens à aller voter, ou c'est un autre ressort qui a été?
Je pense que c'est un autre ressort. Je pense qu'il y a eu la conscience des enjeux, la conscience du danger. Et de ce point de vue-là, la montée des populistes partout en Europe, je dis bien partout, en France aussi, a sans doute réveillé des consciences. Et on s'est dit, non, l'Europe, elle est trop belle, elle est trop importante pour la laisser entre ces mains-là. Cette idée, elle est trop forte pour la laisser dépérir ou pour revenir en arrière. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé.
Vous avez une drôle d'analyse, on peut dire exactement l'inverse, en disant que c'était contre la commission que vous incarnez, contre cette idée de l'Europe que vous incarnez, que beaucoup sont allés voter, notamment en Europe de l'Est. Et je pense, par exemple, aux Hongrois qui ont voté à 56% pour le parti de Viktor Orban, ils se sont peut-être mobilisés contre vous.
Ne me faites pas dire que les populistes n'existent pas, que la menace de l'extrême droite est écartée. Quand je vois les scores, non seulement en Hongrie,
en France,
non seulement en Pologne,
en Italie.
Mais en Italie, surtout 34% pour la Lega, En Belgique avec le Vlaams Belang, en France avec le Rassemblement National, je vois que ce n'est pas bon. Mais assurément, le Rassemblement National avec une participation plus faible, et on le sait, aurait fait un score beaucoup plus bas. Et donc, je pense qu'il y a eu en effet le surcroît de participation, je ne disais pas autre chose, a bénéficié aux partis pro-européens. C'est pas un plébiscite pour l'Europe, c'est juste un sursaut. Ça ne doit pas être qu'un sursis, ça doit être quelque chose de beaucoup plus puissant que cela. Et il reste maintenant 5 ans à ceux qui ont été élus au Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg, à la prochaine Commission européenne pour transformer l'essai et pour faire en sorte que non seulement on se dise ça vaut la peine, mais qu'en plus on ait envie de voter par enthousiasme. Et vous m'interrogez sur la campagne. Moi, cette campagne en France, en tout cas, elle n'a pas fait battre mon cœur.
Alors, je voudrais qu'on approfondisse encore un petit peu. On observe malgré tout un affaiblissement du PPE, cette droite européenne, et des sociaux-démocrates, la gauche. Est-ce que c'est un mal nécessaire, finalement, pour relancer l'Union européenne, que ces deux grands partis qui ont animé ces 30 dernières années l'activité parlementaire, est-ce que c'est bon, finalement, que le paysage politique du Parlement européen change ?
Oui, c'est bon. Bah, d'abord, petite chose qui n'est pas un bémol, ces deux partis ont perdu des sièges, ils ont perdu chacun 40 sièges, mais ils restent, et de loin, les principales formations du Parlement européen. Le PPE en a 180, les conservateurs, les sociaux-démocrates en ont encore 150. Ce qui veut dire quand même que, pour ceux qui parlent sans arrêt de la crise terminale de la social-démocratie, le patient a encore quelques ressorts, on y viendra sans doute.
En France, mais il n'a pas beaucoup de ressorts.
Je trouve que c'est une excellente chose qu'il y ait davantage de pluralisme. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bon qu'un parti, deux partis ensemble gouvernent tout le temps. Je crois que c'est une excellente respiration que la prochaine coalition majoritaire au Parlement européen, et donc aussi dans les institutions européennes, soit faite d'au moins trois partis, c'est-à-dire les conservateurs, ils seront toujours là, on peut le regretter pour certains, les socialistes, les libéraux et les écologistes. Parce que la percée écologiste est un facteur qui, bien sûr, concerne tout le monde. Quand Jean-Claude Juncker a été désigné président de la Commission, il avait dit « ma commission, la commission de la dernière chance », il parlait de la dernière chance économique. La prochaine commission, ce sera la commission de la dernière chance climatique. Et on a besoin des idées des écologistes. Et donc, qu'il y ait maintenant ces quatre partis qui discutent pour former les institutions.
Mais ça va changer quoi, en fait?
Je vous prends un exemple très simple. Il va falloir choisir un président de la Commission. Le président de la Commission, il est depuis 15 ans conservateur. Depuis 15 ans, il appartient au PPE. Quel que soit le système, que ce soit les chefs d'État ou de gouvernement qui choisissent, ou que ce soit le Parlement européen avec le système des Spitzenkandidat. Aujourd'hui, vous avez un Parlement européen dans lequel, certes, le PPE est le premier parti, mais enfin, il a 180 sièges sur 750, il est loin de la majorité. L'écart avec le PSE de 40 sièges n'est pas très important. Donc, il n'y a pas de leadership évident. Et moi, je vais vous dire une chose. 15 ans, ça suffit. Pour moi. Ce que je souhaite, c'est que les sociaux-démocrates, qui sont la deuxième force, les libéraux, et Emmanuel Macron qui va les rejoindre, les écologistes, soient d'accord pour qu'il y ait un président de la Commission qui représente une Europe qui soit plus ouverte, plus progressiste. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que le PPE aujourd'hui, il s'est largement tourné vers la droite. C'est certes le parti d'Angela Merkel, pour une femme pour laquelle j'ai le plus grand respect. Monsieur Weber est un homme d'ailleurs consistant et solide.
Tout le monde comprenne, Mme Moscovici. Ouais. Les conservateurs du PPE ont revendiqué le poste de président de la Commission pour leur tête de liste. Absolument. Manfred Weber, il est allemand. Le problème, c'est qu'ils sont faibles en nombre d'eurodéputés. Ils n'ont pas la main ou ils n'ont plus la main comme ils l'avaient avant, notamment la CDU allemande qui a pris une claque aux dernières élections. Donc maintenant, la bataille qui commence est passionnante parce qu'il va falloir en prendre en compte d'autres sensibilités.
C'est pas seulement parce que ce parti est faible. Il ne s'agit pas de dire on va contre le plus faible. C'est parce que ce parti, aujourd'hui, incarne une ligne qui est une ligne qui se tourne beaucoup vers la droite. Vous parliez des Hongrois. Monsieur Orban, jusqu'à nouvel ordre, il est compté dans les 180 députés.
Comme Jean-Claude Juncker.
Monsieur Wauquiez, enfin plutôt Monsieur Bellamy, et ses quelques troupes qui ont fait cette campagne vraiment tournée vers la droite la plus rétrograde, ils sont dans le PPE. Monsieur Kurz, qui était encore la semaine dernière chancelier autrichien, allié à l'extrême droite, il est dans ce parti-là.
Et Jean-Claude Juncker, avec qui vous travaillez aussi, et que vous aimez bien, et que vous trouvez formidable.
Mais Jean-Claude Juncker représente la démocratie chrétienne ou la social-démocratie
chrétienne. En tout cas, dans le PPE, il n'y a pas qu'Orban et Bellamy, il y a aussi Jean-Claude Juncker.
Mais je pense qu'il est temps de changer. Et je pense que des Jean-Claude Juncker, pour vous le dire franchement, au PPE, il n'y en a plus beaucoup. Et donc, je souhaite que le prochain président de la Commission soit un président, ou la prochaine, soit quelqu'un qui incarne quelque chose un peu différent. Alors, non qui, pas que Jean-Claude Gall, mais que le PPE.
Qui, justement, Nathalie pour incarner, parce que ça ne sert à rien de tourner autour du pot, on sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont susceptibles. Qui est-ce que vous, qui choisissez-vous? Puisque vous êtes favorable à cette recomposition au niveau européen, comme il y a eu en France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en retard? Monsieur Virginie a demandé tout à l'heure si c'était Monsieur Timmermans, si c'était...
Vous vous revendiquez tout le temps de la social-démocratie.
Absolument.
C'est votre parcours. Donc, est-ce que Frans Timmermans, qui est le candidat des sociaux-démocrates de l'aile gauche, un socialiste, serait...
Alors, je vais essayer de vous répondre.
Si une coalition...
Et n'oubliez pas ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément en tête le trombinoscope des candidats à la présidence de la Commission européenne.
J'allais vous obéir par anticipation à Libadou.
Merci, c'est bien. Bonne attitude.
C'est l'autorité naturelle.
C'est moi le commissaire.
Il était professeur. Je sais qu'il a même des élèves illustres. Non, je vais procéder par méthode. Que se passe-t-il? D'abord, il faut que deux institutions, le Parlement européen, qui a une forte légitimité, puisqu'il y a une forte participation, et le Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement, se mettent d'accord.
Ouais.
Et il y a un principe qui s'appelle le principe dit des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire des têtes de liste des grands partis. Et la première chose, c'est de se tourner vers ces Spitzenkandidaten. Le Parlement européen le souhaite, et le Conseil européen ne l'exclut pas. Qui sont ces Spitzenkandidaten? Pour les grandes familles politiques, il y a Monsieur Weber, il y a Monsieur Timmermans.
Manfred Weber pour le PPE, les conservateurs.
Il y a Monsieur Timmermans qui est le premier vice-président de la Commission sortant, un ancien ministre des Affaires étrangères néerlandais.
Qui Madame est un social-libéral,
social-démocrate, c'est le candidat des sociaux-démocrates. Il y a des Verts, les libéraux n'ont pas choisi à proprement parler de Spitzenkandidat.
Mais il y a des noms
si
qui circulent.
On sent que Madame Vestager a pris là-dessus.
Margaret Vestager, c'est votre collègue, elle est commissaire européen à la concurrence.
Il me semble que la première des choses à faire, c'est d'avoir ce dialogue entre le Conseil européen et le Parlement européen, et donc ça tourne assez naturellement vers les Spitzenkandidat, et de ce point de vue-là, Frans Timmermans est un homme qui a les qualités pour être président de la Commission. Pourquoi? Parce qu'il est le premier vice-président sortant, parce qu'il est le Spitzenkandidat du deuxième groupe, et si c'est pas le premier qui l'emporte, donc c'est vers le deuxième qu'on doit se tourner d'abord, parce que c'est un homme qui parle cette langue, qui est extrêmement brillant,
parce qu'il est prêt à l'alliance avec les centristes, avec le groupe d'Emmanuel Macron au Parlement européen.
Mais attendez, c'est pas que lui, il n'y a pas de secret. La semaine dernière à Bruxelles, Monsieur Macron, le président de la République française, a déjeuné avec Antonio Costa, avec Pedro Sanchez, qui ne sont pas réputés comme étant des centristes mous, ainsi qu'avec le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, et le premier ministre belge, Louis Michel. Donc, il y a quelque chose, là, il y a des discussions. Je ne dis pas qu'il y a une alliance, elle est en train on est en train d'y réfléchir. Et donc, je crois, moi, que Frans Timmermans a les qualités. Il n'est pas le seul. Une fois que le principe des Spitzenkandidaten, si ça ne marchait pas, on peut se tourner vers d'autres. Et Margaret Vestager, que vous évoquiez, il se trouve que Frans Timmermans et Margaret Vestager sont pour moi deux collègues et en plus deux amis personnels. Et donc, ils ont tous les deux des qualités tout à fait éminentes et différentes, d'ailleurs, pour présider la Commission.
Frans Timmermans, qui est le premier vice-président de la Commission européenne, c'est pour le dire vite, le bras droit de Jean-Claude Juncker, c'est la magie de ces institutions bruxelloises. Travailler de très très près avec un conservateur, social-démocrate.
Ali Badou, là encore une fois, il faut qu'on nous comprenne. La Commission européenne, c'est une coalition par définition. Il y a 14 conservateurs, il y a 8 sociaux-démocrates, dont moi, il y a 6 libéraux. Et je vais vous dire une chose, on n'a jamais voté en 4 ans et demi. On est toujours tombé d'accord. Et moi, qui suis social-démocrate, quand il s'agit de la Grèce, quand il s'agit de les politiques budgétaires, ou quand il s'agit de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, j'ai agi en social-démocrate.
C'est justement ce qu'on vous reprochera, à savoir que droite et gauche, vous faites la même politique.
C'est pas ça. Le compromis, c'est de pousser son avantage le plus loin possible. Un bon compromis, c'est quand on n'abandonne pas ses idées qu'on a convaincu les autres.
Alors,
c'est
ce que j'essaie de faire. Alors, j'aimerais revenir sur le troisième groupe, justement, le groupe des libéraux, la HALDE, que Emmanuel Macron a rejoint, et dont on ne sait pas exactement quelle sera la composition à la sortie. Est-ce que les valeurs d'Emmanuel Macron et de En Marche et de la liste Renaissance vous semblent compatibles avec les valeurs de ce groupe tel qu'on les connaît aujourd'hui?
Vous avez souvent dit que ce groupe, très clairement, il y a des contacts entre eux, et ce groupe sera peut-être rebaptisé, mais c'est un groupe libéral. Et il me semble qu'Emmanuel Macron se compte déjà dans ce groupe, en tout cas pas lui, mais Madame Loiseau et ses élus de la liste Renaissance. Donc ne faisons pas cette exégèse-là.
Non, mais je vous ai souvent entendu dire que ce groupe libéral était beaucoup plus libéral que ne l'était En Marche. Donc est-ce que vous pensez encore ça aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que En Marche a évolué et que finalement ils sont devenus parfaitement compatibles?
On va revenir en France tout
mais
à l'heure.
Je vais pas faire cette exégèse. Encore une fois, ça leur appartient. Ce que je dis simplement, c'est que, vous savez, tout groupe politique, en réalité, est assez composite. L'Europe est composite. Et vous ne trouvez pas des partis qui sont identiques, y compris de la même famille politique, dans deux pays différents. Donc il faut accepter cette diversité-là. Quand je parlais tout à l'heure d'une nouvelle coalition, attention, une coalition, c'est pas une compromission. Si je me coalise avec quelqu'un, ça veut pas dire que j'abandonne mes idées. Ça veut dire que j'estime qu'entre deux, non pas mots, mais entre deux alliances, il faut choisir la bonne. Et si j'appelle à un dialogue entre les sociodémocrates, les écologistes et les libéraux, c'est pas parce que je serais devenu libéral, c'est parce que je pense simplement que le moment est venu de créer une hégémonie au sein d'une coalition plus large avec les conservateurs, et que cette hégémonie ne doit pas passer pour toujours par le PP. Encore une fois, ça fait 15 ans qu'il dirige la commission. 15 ans, c'est long.
Alors, du coup, j'aimerais justement reparler encore un petit peu de cette présidence de la Commission européenne, parce qu'il y a un nom qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de Michel Barnier, dont il a été beaucoup question ces dernières semaines malgré tout, un Français, un ancien ministre, commissaire à deux reprises à la Commission européenne. Et puis, il y a une chose également que je voudrais savoir, c'est est-ce que la situation vous semble aujourd'hui, pour trouver ce nom commun pour la Commission européenne, est-ce que la situation est un peu bloquée? Et est-ce que cette Bulgare dont on commence à entendre parler, Kristalina Georgieva, comme elle vient de l'Est, est-ce que finalement ça pourrait être le consensus commun qui pourrait être
trouvé? Portrait de Kristalina Georgieva pour ceux qui nous écoutent, pour moi aussi d'ailleurs y compris.
Kristalina Georgieva est une ancienne commissaire européenne, vice-présidente de la Commission, qui a démissionné de la Commission pour aller à la Banque mondiale, en tête aujourd'hui la numéro 2. Et c'est une collègue également extrêmement compétente et capable. Mais on va sophistiquer un petit peu. Attendez, on va sophistiquer un petit peu. Il s'agit pas de, il n'y a pas un poste qu'il faut choisir. Il y en a quatre. En vérité, 4 plus 1. Il faut choisir le président de la Commission, le président du Conseil européen qui préside la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Il faut choisir le président du Parlement européen. Il faut choisir ce qu'on appelle le haut représentant ou la haute représentante pour la politique étrangère
qui
et de sécurité.
Qui ne sert pas à grand-chose. Là, on est en train de choisir le chef du gouvernement européen. Le président de la Commission, le chef du gouvernement.
Et en plus, non mais pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et en plus, il y a la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que tout ça, ça fait, la Banque Centrale Européenne était un point un peu à part, un paquet. Et c'est à l'intérieur de ce paquet qu'il va falloir trouver des équilibres entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Monsieur Tusk a dit qu'il y aurait au moins deux femmes parmi les quatre postes politiques.
Mais alors, restons simples.
Non, je dis ça pour, parce qu'il faut le comprendre. Alors, je vais rester simple.
Pour que je comprenne.
Vous m'avez perdu.
Pour choisir le chef du gouvernement européen, le président de la Commission, Karine Bécart, vous disiez Michel Barnier.
J'ai pas été assez clair. Parce que j'ai dit qu'il fallait commencer par les Spitzenkandidaten. Michel Barnier, aujourd'hui, n'est pas candidat. Et donc, j'ai pas volontairement pas parlé de lui, parce que je pense qu'il est sans doute disponible, ça on pourra pouvoir le comprendre, mais son temps ou son entrée dans la discussion ne peut venir qu'à un stade ultérieur.
Et donc, est-ce que la situation est
bloquée? Il y a aussi des qualités,
est-ce que la situation est bloquée?
Mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. La discussion vient de commencer. Il y a eu un premier tour de piste mardi dernier, il y a un deuxième Conseil européen le 20 juin.
Les chefs d'État et de gouvernement des 28.
Soyez patients.
Soyons patients. En l'occurrence, c'est une bataille passionnante.
Vous nous dites que ça va prendre très longtemps.
Au moins jusqu'au 20 juin. Au moins. Ça peut prendre plus.
Mais tout sera bouclé le 31 octobre comme prévu?
Je l'espère bien.
Le 31 octobre, pour que ceux qui nous comprennent,
la nouvelle commission,
en l'occurrence,
non mais j'ai dit que les négociations doivent être terminées au 31 octobre. Là, sur le papier, la nouvelle commission doit être en place au 1er novembre. Ça, voilà. C'est la théorie.
La commission actuelle, à laquelle j'appartiens, a pris ses fonctions le 1er novembre 2014. Donc le 31 octobre à minuit, en théorie, c'est fini. Il peut arriver que ça dure un peu plus. La commission Barroso qui précédait avait pris ses fonctions en février. Et c'est pas simple. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie.
Oui.
Parce que vous savez,
Pierre Moscovici, c'est pas simple. C'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de rapport de force clair en Europe. Parce qu'il y a des situations comme en ce qui se passe en ce moment entre les 28 chefs d'État et de gouvernement où on est en train de chercher des alliances, on négocie.
Ça s'appelle la démocratie.
Oui, c'est une démocratie parlementaire.
Mais non, c'est une démocratie parlementaire et de bon aloi. Vous savez, on aime beaucoup à dire, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est commissaire, pas élu, etc., etc. Mais vous savez comment on devient commissaire? C'est beaucoup plus dur que devenir ministre. Parce qu'il faut d'abord être désigné par son chef d'État ou de gouvernement, en l'occurrence.
Il faut être adoubé, il faut être élu.
Après, il faut être élu par une commission du Parlement, après une audition qui peut durer 4 heures, et il est arrivé qu'on dise non. Est-ce qu'un ministre passe une audition pendant 4 heures et qu'à la fin on lui dise non? Donc c'est ça qui peut prendre du temps. Ce qui peut prendre du temps, c'est qu'à un moment donné, on peut dire tel commissaire n'est pas capable, ou bien tel parti d'extrême droite désire un commissaire, nous n'en voulons pas, etc.
Les commissaires retoqués, c'est
avant
rare
votre
quand
portrait,
même.
Il y en a à chaque commission.
Il y en a eu
au moins un.
Il y en a eu une de la nomination de la commission. Juncker, on va s'arrêter là pour passer à votre portrait. Juste dernière question avant d'écouter le portrait de Karine Bécart. Emmanuel Macron, est-ce qu'il est dans la position de faiseur de roi aujourd'hui?
il est clairement à la table de la négociation et sa position est très importante. Parce que selon que les libéraux choisiront de s'allier avec les sociaux-démocrates et les écologistes, ou qu'à un moment donné, comme c'était le cas dans le précédent Parlement, pour ça que je disais qu'ils étaient plus à droite, ils étaient en général avec le Parti Populaire Européen, ça change beaucoup. Donc il a du jeu. Il a du jeu, mais il est le troisième groupe, enfin plutôt le groupe auquel il appartient, le troisième.
Donc il a raison d'appeler son groupe la force centrale. C'est lui qui utilise ce terme, la force centrale.
C'est une force très importante. Et c'est une force qui est au centre.
Le commissaire européen aux affaires économiques.
C'est pas non plus le premier groupe. C'est le PPE 180, je cite les choses, les sociaux-démocrates 150 et le groupe un peu plus de 100. Donc voilà les choses.
Le commissaire européen aux affaires économiques et financières, Pierre Moscovici, est l'invité de France Inter, du journal Le Monde et de France Info ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Votre portrait, Pierre Moscovici, signé Karine Bécard.
Pierre Moscovici, on l'a dit, c'est désormais bientôt fini. Il ne vous reste plus que 5 mois avant la fin de votre mandat. 5 mois pour organiser la suite, 5 mois pour décider de continuer ou pas à faire de la politique. Et ce n'est pas si simple pour vous qui avez espéré, il faut le rappeler, présider la Commission européenne. Vous aviez osé clairement le formuler, vous vous en souvenez. Seulement, vous n'êtes pas parvenu à vous imposer auprès de vos amis, les socialistes, qui n'ont pas voulu de vous comme tête de liste. Ils ont préféré, pour le dernier scrutin européen, miser sur un nouveau mouvement, Place Publique, qui au final a rassemblé un peu plus de 6%. Auriez-vous fait plus, Pierre Moscovici ? Difficile à dire. Mais ce qui est étrange, c'est que ces amis socialistes aient si vite effacé, balayé tout votre parcours d'Européen convaincu. Parce que vous avez été, c'est vrai qu'on l'a un peu oublié, vice-président du Parlement de Strasbourg. Par 2 fois également, vous vous êtes retrouvé eurodéputé. Et pendant 5 ans, vous êtes resté ministre des Affaires européennes. C'est Lionel Jospin, votre mentor, qui vous avait nommé en 1997. Et vous êtes, cette année-là, d'une remarquable humilité.
On a des comptes à rendre aux Français. Ceux qui nous ont élus, ils attendent de nous quelque chose. Franchement, ne prenons pas la grosse tête, ne prenons pas, parce que nous ne sommes pas, nous sommes toujours les représentants du peuple, même en roulant dans des voitures confortables.
À l'époque, Pierre Moscovici, vous avez presque 40 ans. Vous allez passer 5 années donc au Quai d'Orsay à travailler, mais sans parvenir véritablement à imprimer. Peut-être est-ce une question de tempérament, vous qui avez toujours œuvré, c'est vrai, parmi les grands, mais tout en restant un numéro 2, en préférant vous installer juste derrière eux. Derrière Lionel Jospin d'abord, et puis derrière DSK, dont vous avez été l'un des éminents bras droits, avant de glisser derrière François Hollande, pour lequel vous avez dirigé la campagne présidentielle. Et même quand vous devenez son ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici, c'est un poste clé dans lequel vous apparaissez extrêmement réservé, ce qui vous a valu d'ailleurs d'être beaucoup critiqué. En octobre 2014, avant de rejoindre Bruxelles et la Commission européenne, voilà ce que vous répondiez.
J'essaierai, et je crois que je parviendrai, à être meilleur comme commissaire européen que j'étais comme ministre.
Meilleur commissaire européen que ministre, 5 ans après, est-ce que c'est encore ce que vous dites ? En tout cas, cela ne répond pas à ma question. Qu'allez-vous faire maintenant, Pierre Moscovici, à bientôt 62 ans ? Vous avez tenté, vous, l'énarque, de retourner à la Cour des comptes, mais cette fois pour la présider. Simplement, le jeu de chaise musicale pour y arriver n'a pas pour l'instant parfaitement fonctionné. Reste votre ancien fief dans le Doubs ou un retour au PS ? Dans les deux cas, vous apparaissez ni attendu, ni espéré. Bref, tout cela s'annonce passablement compliqué.
C'est désespérant ce que vous racontez. Ça me fait une douleur terrible. En plus, vous dites à chaque fois la même chose.
Ah bon?
Oui, toujours, numéro 2, etc.
En même temps, elle est cohérente.
Mais oui, c'est vrai, c'est son opinion qu'elle la donne. Mais vous savez...
Derrière Jospin, derrière chose, DSK, derrière Hollande, c'est pas faux.
Ça, c'est la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les circonstances font que des hommes sont en position et d'autres ne le sont pas. Et c'est pas toujours des coups de force, l'existence. Moi, j'étais en effet tout à fait fidèle... Lionel Jospin, j'ai été intellectuellement complice avec David Strauss-Kahn, et à un moment donné, François Hollande s'est imposé comme candidat, et j'ai souhaité qu'il soit élu, et j'ai beaucoup aidé comme directeur de campagne. Ça, c'est la vie. Mais, vous savez, je ne serai plus jamais le numéro 2 de quiconque, par hypothèse, par définition. Et je pense qu'il est temps maintenant de passer à un autre stade de l'existence. Et je ferai toujours de la politique. Comment ? Je n'en ai aucune idée. Ce ne sera probablement pas de la politique élective, parce que j'ai quand même beaucoup fait. Quand je me contemple, je me désole, mais quand je me compare, je me console. J'ai été 7 ans ministre, 20 ans parlementaire, 5 ans commissaire européen. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse vraiment de plus ? En revanche, je suis acharné dans la défense de mes idées. Je suis acharné pour faire en sorte que, dans ce pays, il y ait une gauche qui soit cohérente, consistante. Elle aurait pu l'être plus, y compris pendant ces élections européennes. Elle doit l'être plus dans le passé, dans le futur. Et ça, on me trouvera à ma place,
quelle qu'elle soit. Alors,
vous avez dit tout à l'heure.
Tout n'est pas question de place dans la vie. Vous savez, vous l'avez dit justement, j'ai 62 ans. Ça fait maintenant 25 ans que je suis dans la politique, à un bon niveau. Je n'ai pas grand-chose à prouver de ce côté-là. Donc, je veux vraiment m'émanciper intellectuellement. Je veux peser dans ce débat-là. Je le ferai de toute façon. Mmh. Et je le ferai comme citoyen, je le ferai comme responsable. Nous verrons bien. Mais je le ferai. Parce que, justement, cette expérience que je porte, cette consistance, cette cohérence que je porte, je pense qu'elle peut être utile. Vous parliez de la liste Glucksmann. Je ne sais pas le score que j'aurais fait. Mais je sais qu'en toute hypothèse, il y a besoin d'une force social-démocrate qui soit beaucoup plus réaliste, beaucoup plus crédible, plus forte, beaucoup plus sincèrement européenne, beaucoup plus entraînante, beaucoup plus écologiste. Bref, il y a énormément de choses à faire. Le Parti Socialiste, avec Place Publique, a survécu la semaine dernière. Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce qu'il aurait été dommage quand même qu'il n'y ait pas de socialistes au Parlement européen français. Ça aurait été un affaiblissement et pour ce parti, et pour la gauche, et pour la France. Mais il faut maintenant passer du mode survie au mode reconquête. Est-ce que les socialistes le voudront ? C'est leur affaire. S'ils le veulent, ça peut se passer dans ce qu'on appelle le Parti Socialiste. Un parti qui peut partir du Parti Socialiste. S'ils ne le veulent pas, ça peut se faire en dehors du Parti Socialiste. Vraiment maintenant que pour ceux qui ont le cœur à gauche, il y a quelque chose à faire. Vous savez, les élections de la semaine dernière, tout le monde a parlé de la bipolarisation Rassemblement National contre
les progressistes.
LRM. Mais il y a un troisième phénomène qui s'est passé. C'est que la gauche est revenu à flot. Si vous ajoutez les écologistes, plus les socialistes, plus les amis de Benoît Hamon, ça fait quelques 24%. C'est une force qui, si elle s'unissait, pourrait peser. Alors, et cette force, quelle est-elle ? Sociale, démocrate, écologiste, européenne. Ça, c'est une gauche qui peut se construire à condition qu'elle en ait envie. Il peut y avoir, en effet, d'autres destins pour tel ou tel homme, ou femme de gauche, ou démocrate.
On peut vous poser des questions.
Vous avez dit tout à l'heure...
trop passionné.
Non, mais allez-y, autrement faire monologue. Vous avez dit tout à l'heure que la campagne n'avait pas fait battre votre cœur. Est-ce que c'est votre cœur de socialiste ? Qu'est-ce qui peut faire rebattre votre cœur ? Et comment ? Parce que j'ai entendu votre tirade. Yannick Jadot est arrivé en tête. Est-ce que les socialistes doivent sortir, accepter d'aller travailler avec Yannick Jadot ? Est-ce que c'est le PS qui doit être le centre, le cœur nucléaire et que les autres aillent vers lui ? Et dernière question, est-ce que vous considérez qu'il est encore possible de faire quelque chose avec Jean-Luc Mélenchon ? Parce que le total gauche, c'est 30, mais là-dedans, vous ne avez pas cité tout le monde. Faire quoi avec qui ?
Je n'ai pas cité Jean-Luc Mélenchon, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait ces dernières années un choix que je trouve condamnable et qui a été condamné, qui était un choix populiste et nationaliste. Et d'ailleurs, il n'a pas été compris ni par ses électeurs, ni même par certains de ses camarades. Et il s'est mis sur le côté, et il a été sanctionné durement. Et ce que je vois, c'est qu'il y a, disons, une gauche écologiste, social-démocrate, pro-européenne, qui est extrêmement diverse, mais qui existe encore dans ce pays. Et il y a d'ailleurs aussi...
Enfin, vous additionnez des gens qui ne veulent pas s'additionner ?
Il y a d'ailleurs aussi des gens qui sont de ce courant de pensée, dans les rangs de La République En Marche, parmi les soutiens du président de la République, et tout ça, c'est encore quelque chose qui est un peu gazeux. Alors, vous m'interrogez sur des recompositions à partir de telle ou telle personne, ou telle ou telle appareil, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je suis commissaire européen, ce que je crois surtout, c'est qu'il y a besoin d'avoir une offre politique qui soit intellectuellement consistant.
D'accord, mais s'il
n'y
a pas quelqu'un pour l'incarner,
Mais commençons d'abord par cette réflexion fondamentale. Quelles sont les questions que la gauche doit se poser ? La question démocratique. La démocratie est menacée dans le monde et en Europe par la démocratie libérale. La question écologique. C'est l'urgence climatique dont je parlais tout à l'heure. La question sociale. Si on a eu 6 mois de mouvement gilet jaune, c'est parce que la question des inégalités est absolument cruciale. Et l'Europe ? l'Europe là-dedans, c'est le point de rencontre. C'est pour ça d'ailleurs que les électeurs ont voté. Et donc je pense qu'il y a là un travail à faire qui est un travail intellectuel qui n'est fait nulle part.
Mais il faut quand même
et
des
ce travail-là, il faudra le faire.
Il faut quand même des gens qui mettent les mains dans le cambouis.
Oui, absolument.
Qui les met, par exemple, avec qui
mais des, on travaille. Des gens qui sont prêts à penser, qui sont aujourd'hui en déshérence, qui ont été dans la politique,
c'est
qui sont jeunes.
Mais
vous ne les connaissez même pas par définition.
Alors on les connaît pas.
Après François Hollande.
Après, vous m'interrogez sur des choses qui, pour le coup, comme commissaire européen, ne m'intéressent pas du tout, parce que je ne suis pas en train de penser à tel ou tel parti politique. Vous me demandiez tout à l'heure, mais non.
Bon, enfin,
non.
Vous avez envie de la construire,
on parle de recomposition politique.
Je vous ai dit tout
à l'heure. Qui nous faisait une addition tout à l'heure de partis qui ne veulent pas s'allier.
Je vous ai dit tout à l'heure que si le Parti socialiste, par exemple, puisqu'il s'agit de lui, était capable de se refonder, ça peut valoir la peine. S'il ne le souhaite pas, cette pensée devra se dérouler en dehors de lui.
Alors,
je pense qu'il ne faut pas être, par rapport aux appareils, comme ça, dans quelque chose de totalement figé.
Non, mais les autres, comment ça s'est
il va falloir refaire quelque chose de totalement nouveau. Et je crois surtout que dans notre pays, si vous voulez, il y a un vide de ce côté-là. Les écologistes ont un mérite. C'est parce qu'ils ont une cohérence. Ils la poussent, ils la portent.
C'est l'homme fort aujourd'hui, Yannick Jadot, malgré tout, de cette gauche qui pourrait être composée.
Est-ce que c'est un personnage central? C'est le plus populaire et c'est le vainqueur des élections dans ce bloc-là la semaine dernière. Mais les écologistes, je les connais bien. Mon père était un des fondateurs des Verts. Je les fréquente depuis longtemps. Les écologistes, ils doivent aussi s'ouvrir à la question sociale. Ils doivent aussi acquérir une capacité à gouverner. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, on verra ce qui se passe. Ils devront s'insérer d'une façon ou d'une autre dans un système d'alliance.
C'est eux qui s'inséreront ou vous qui essayerez de vous insérer. C'est ça le problème de leadership, parce que ça va venir vite. Ce que vous dites, on a l'impression que ça peut se passer sur 50 ans, leur composition n'a pas le temps.
Les questions de leadership, en général, elles se déroulent à la fin. Vous savez, Emmanuel Macron, qui aurait pensé un an avant
qu'il serait président de la République. Tout le monde a dit pendant deux ans qu'il n'y arriverait jamais.
Mais les François Mitterrand
et tout, Emmanuel Macron, tout le monde s'est installé derrière lui.
On ne va pas faire de l'histoire, mais puisque vous parlez de François Mitterrand, en 1965, on était en train de chercher un candidat à gauche, il a surgi, il a mis le général de Gaulle en balotage. Patience.
Patience, aidez-nous à comprendre
toujours,
malgré tout. Non mais ça, on l'imagine, nous le sommes un petit peu moins. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, dit « Jamais il n'y aura d'alliance avec La République En Marche ». Vous, social-démocrate, le PS est votre parti de cœur, vous dites qu'il faut que le candidat des sociodémocrates au Parlement européen, Frank Timmermans, s'allie avec le groupe de La République En Marche au Parlement européen. Voilà, ça, ce sont des positions totalement contradictoires qui sont portées par deux individus, Olivier Faure et vous. Vous êtes tous les deux socialistes. Mais qui l'emporte dans ce jeu-là?
Attendez, je vais essayer d'être un peu logique. Il y a eu, la semaine dernière, 6 élus PS Place Publique. Mmh. Très bien. Ou 5.
5 et 6 après Brexit.
Ceux-là vont se retrouver au Parlement européen. Ils vont siéger au groupe du Parti Socialiste Européen. Monsieur Glucksmann s'y est engagé. J'espère bien que le moment venu, ils considéreront que quand on est dans un groupe, on respecte sa discipline. Et si ce groupe choisit, non pas encore une fois de se rallier, parce que c'est pas dont il s'agit, mais de se coaliser. Je suis désolé, quand vous avez pas de majorité, vous êtes obligé de construire des coalitions. Et donc, des coalitions, c'est toujours un choix entre deux inconvénients, d'une certaine façon. Et oui, des sociodémocrates ne sont pas des libéraux. Et moi, je ne suis pas d'accord avec monsieur Babiche, qui est,
oui, mais attendez, ce qu'il vous dit justement, c'est qu'Olivier Faure considère que votre logique de coalition, pas compromission, c'est quelque chose qui tient pas debout.
Faire une coalition, dans le cadre d'un Parlement où il n'y a pas de majorité, ça n'est pas une compromission. Mmh. C'est juste quelque chose d'efficace.
Il n'y a pas le choix nationalement.
Je réponds à la question d'Ali Badou. Mais la question nationalement, pour le moment, on n'a pas de sens parce qu'on ne sait pas.
Mais vous pourriez travailler avec des gens d'En Marche, l'aile gauche d'En Marche, c'est ça ce qu'ils vous
demandent? Mais bien sûr que oui.
Vous voyez bien que vous n'êtes pas d'accord.
Bien sûr que oui. Écoutez, tous ces jeunes gens-là qui sont dans l'aile gauche d'En Marche, ils ont travaillé avec moi dans le temps.
C'était des Strauss-Kahn.
Beaucoup d'entre eux ont été à mon cabinet. J'ai deux membres de mon cabinet, deux conseillers techniques à mon cabinet.
Alexis Collin, en plus.
Mais Cédric O et Julien de Normandie étaient des membres de mon cabinet. Est-ce que je ne pouvais pas travailler avec eux hier? Si. Est-ce que je pourrais travailler avec eux demain? Oui. Ne soyons pas dans les exclusives individuelles.
Mais encore une fois,
ce qui compte, c'est d'avoir une colonne vertébrale. Mmh. C'est de savoir par où passe l'hégémonie intellectuelle. C'est de savoir quel est le centre de gravité.
Et l'hégémonie politique et les rapports de force, c'est aussi ça la politique. Karine, puis Virginie Malingre.
Donc du coup, on entend régulièrement Jean-Yves Le Drian, en ce moment ministre des Affaires étrangères, appeler à la construction d'un agir de gauche pour justement permettre de faire atterrir des gens comme vous, finalement, qui avez travaillé avec des gens de La République En Marche, qui vous sentez assez proche d'eux. Vous pourriez y aller? Est-ce que vous êtes intéressé?
Non. Moi, encore une fois...
Pourquoi vous n'êtes pas intéressé?
Parce que je ne souhaite pas refaire de la politique comme ça. Parce que je ne souhaite pas être dans des dispositions dispositifs qui sont des dispositifs compliqués. Non, je souhaite simplement qu'à un moment donné, être une parole libre qui est au service de l'intérêt général et des idées auxquelles je crois. Et je pense que la liberté, je l'ai gagnée à travers une longue vie politique, maintenant je l'ai, je suis commissaire européen, après je serai autre chose, ça n'est pas pour me replonger dans ces délices-là. J'ai beaucoup de sympathie
pour Jean-Luc Dreyan. Vous avez fait un vote libre aux européennes, vous-même, personnellement? Vous avez fait un vote libre, parce que vous dites que je suis un homme libre.
Vous allez nous révéler?
Non.
Pour qui avez-vous voté aux élections européennes, Pierre Moscovici?
Alors, je vais vous dire, je suis un social-démocrate et je le suis toujours, vous l'avez compris. Je suis un social-démocrate qui est dans l'attente de la renaissance d'une force de gouvernement social-démocrate en France.
Vous avez prononcé un mot important.
De la reconstruction, de la
renaissance,
refondation.
Renaissance.
Oui, renaissance. Je vous signale que c'était aussi le titre de la motion d'Olivier Faure au Congrès du Parti Socialiste, pour laquelle j'ai voté. Je ne sais pas ce que j'ai fait forcément de plus extraordinaire, mais j'ai voté pour elle. Et donc, si vous voulez, voilà quel était mon vote.
Voilà quel était
un vote de gauche.
Non mais. Un vote de gauche.
Un vote de gauche, oui. Mais moi, je vote toujours à gauche.
Vous êtes un peu perdu à gauche, hein, c'est vrai.
Pas du tout.
Virginie Malagrand. Si vous n'arrivez même plus à dire pour qui vous votez, Virginie Malagrand.
Si j'avais voulu le dire, je l'aurais dit pendant la campagne. Et quand je vous dis tout à l'heure que cette campagne n'avait pas fait battre mon cœur, c'est que je n'avais pas suffisamment d'enthousiasme pour me lancer dedans. Bien sûr, j'ai voté, j'ai fait mon devoir. Et mon vote, il a tenu compte des différents paramètres qui sont les miens et des préférences qui sont les miennes depuis longtemps.
Vous avez évoqué, Virginie. Moi je voudrais revenir un peu sur l'Europe, vous avez évoqué Angela Merkel tout à l'heure, elle va partir, on le sait, la date est connue, peut-être avant. Qu'est-ce que vous pensez que son départ va changer pour l'Europe? Parce qu'elle a été là tellement longtemps, un poids tellement important, et pour le coup franco-allemand, mais est-ce qu'elle a été un élément très stabilisateur de l'Europe qu'on a connue?
Elle est un élément fondamental. Elle a été le leader de cette force centrale, pour le coup, chrétienne-démocrate, conservatrice. Elle a su la garder, justement, dans des valeurs que d'autres ont perdues, parce qu'on parle beaucoup de la gauche. Mais en France, qu'est-ce qui s'est passé? L'effondrement de la droite, c'est qu'elle a perdu son âme, la droite française, tout simplement. Elle a perdu son cœur électoral et elle a perdu son cœur tout court. Elle n'a défendu rien de ce qui fait qu'on est de centre-droit. Madame Merkel, si. Madame Merkel est une femme pour laquelle je ne voterais pas si j'étais en Allemagne, mais pour laquelle j'ai le plus profond respect. Tenez, quand par exemple...
Elle a
pris un risque très important d'accueillir des migrants pendant la crise des réfugiés en 2015. J'aurais préféré que la France, de Manuel Valls, fasse cela. Et donc, si vous voulez, c'est une femme pour qui j'ai un grand respect. Elle appartient à un monde d'avant. Vous parliez tout à l'heure à Libadou de Jean-Claude Juncker. C'est aussi un monde d'avant. Ce monde-là, ce monde de la social-démocratie attachée, de la chrétienne, démocratie chrétienne attachée à l'économie sociale de marché, c'est un monde estimable. Qu'est-ce qui va se passer derrière? On ne le sait pas. Et je pense qu'il faudra s'assurer que le centre de gravité de la force conservatrice ne dérive pas vers la droite. Et de ce point de vue-là, je crois qu'avec Mme Merkel, on va perdre beaucoup. J'espère que sa successeur ou un autre chancelier allemand, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer non plus à la CDU-CSU, saura se souvenir de cet héritage-là. L'héritage de Kohl, l'héritage de Merkel... Pas visionnaire, l'héritage de Merkel, mais solide, consistant, respectable.
Est-ce que vous considérez justement que l'attitude, enfin le couple franco-allemand, il y a une dégradation et qu'il y en a une partie qui est imputable à Emmanuel Macron?
Je pense que ces derniers mois n'ont pas été des mois heureux pour le couple franco-allemand. Il faut dire que dès lors qu'on entre dans une compétition électorale, que cette compétition elle est dure, et qu'on a aussi besoin d'affirmer des différences, ça ne facilite pas les choses. Mais l'expérience que j'ai...
Ce que vous dites, c'est que le président de la République n'a pas tenu compte du couple franco-allemand mois.
Je dis que des deux côtés, il y a eu une tension. La nouvelle présidente de la CDU a répondu à la lettre d'Emmanuel Macron avec une brutalité, grande sévérité. Ça, c'est tout à fait logique dans le débat public. Mais entre les Français et les Allemands, ça ne se fait pas. Entre les Français et les Allemands, ça ne se fait pas. Et donc, on va passer maintenant. Revenons un peu à ce qui va se passer. Dans les quelques semaines ou mois qui viennent, on va former de nouvelles institutions européennes. Ça va être long, ça va être très difficile, il faut être encore une fois très patient. Je vous ai décrit une stratégie, il y en a d'autres, et nul doute que tout ça va être extraordinairement compliqué. Mais une fois que ces institutions seront en place, il faudra qu'elles fonctionnent, Et comme toujours, il faudra que les Français et les Allemands retrouvent le chemin d'un travail commun. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas traiter la question écologique. Tenez, une fiscalité de l'énergie moderne, on en a besoin. Et ça, on ne peut pas le faire si les Français et les Allemands ne sont pas d'accord. On ne peut pas créer une défense européenne si on n'a pas les Français et les Allemands. On ne peut pas avoir une économie qui crée plus de croissance, parce que nous sommes dans un ralentissement économique tout de même, si les Allemands n'acceptent pas à un moment donné un impératif de solidarité envers leurs voisins, et y compris envers la France, et si on ne crée pas de la convergence. Et donc, il faudra que le couple franco-allemand retrouve le chemin de l'harmonie. Encore une fois, ça risque de prendre un tout petit peu de temps.
Parce que c'est un couple.
De l'amour, vous savez, ça, c'est de l'expérience que j'ai, encore une fois. J'ai assisté à des réunions franco-allemandes qui ont été d'une brutalité terrible. Vous évoquez, Caroline Becker, le sommet de Nice. Mmh. Au Conseil européen de Nice, Jacques Chirac et Gerhard Schröder se sont vraiment échangés des noms d'oiseaux. Donc, entre Français et Allemands, on n'est pas toujours spontanément d'accord. Ça, c'est une fable. Mais ce qui compte, c'est qu'à l'arrivée, on est toujours le sens de l'intérêt général qui dit on doit dépasser nos différences pour avancer.
Mais c'est marrant parce que là, on a le sentiment que la relation, elle est en train de se tendre et que cette tension est en train de gripper quand même le fonctionnement de l'Union européenne.
Mais parce que quand les Français, les Allemands, ils représentent 40% du PIB de l'Union, ils sont deux grandes puissances économiques et politiques. Et quand ils sont d'accord, ça ne suffit pas forcément. S'ils ne sont pas d'accord, rien ne se fait. Condition absolument nécessaire, indispensable, pas forcément suffisant.
Ils n'ont pas la même lecture de l'Europe, en fait.
Mais maintenant, il faut absolument la retrouver. Parce que, je vous dis tout à l'heure, les électeurs ont fait un choix, un sursaut européen. Mmh. Mais ce sursaut européen, ce n'est pas un chèque en blanc. Mmh. Les électeurs, pour les prochaines élections européennes, dans 5 ans, attendront des résultats. Au fond, ils ont dit, non, finalement, l'Europe, on l'aime. On la veut. Mais ils ont dit
les
aussi...
Électeurs.
Oui.
Ouais, oui.
Mais ils ont dit, je
les
crois,
électeurs britanniques, par exemple, qui ont voté pour un parti pro-Brexit, ils aiment l'Europe.
C'est un peu différent, mais encore une fois, 510 parlementaires sont pro-européens dans le Parlement.
Virginie Malone, question courte,
je termine quand même. Ils ont dit, on l'aime, mais on veut des résultats. C'est pas un chèque en blanc.
J'aimerais qu'on parle d'un autre de nos partenaires, qui est l'Italie. Vous serez encore commissaire à la rentrée, à l'automne. Qu'est-ce que vous allez faire si l'Italie arrive avec un déficit budgétaire de 5% du produit intérieur brut ?
Ils ne vont pas arriver avec un déficit de 5%.
Caricature, mais qu'est-ce que vous allez faire, honnêtement ?
Je vais être plus court-termiste que ça. C'est la semaine prochaine que la Commission européenne doit faire des propositions sur l'Italie. Et avec un déficit budgétaire qui est déjà en train de se creuser, j'ai adressé avec un de mes collègues vice-président de la Commission
une
lettre au ministre des Finances.
J'adore, parce que vous êtes l'un des derniers à avoir des relations épistolaires. Ça n'existe plus aujourd'hui. On envoie des mails, on écrit des SMS, mais vous envoyez des lettres d'amour régulièrement au gouvernement italien. L'amour vache pour les menacer. Attention à la punition si tu dépenses trop.
Depuis 5 ans, je n'ai sanctionné personne.
C'est exactement comme ça qu'ils l'ont vécu, Pierre Moscovici.
Je suis extrêmement heureux, parce que je pense qu'une sanction, c'est toujours une défaite, et pour celui qui est sanctionné, et pour les règles au nom desquelles on le sanctionne. Mais quand même, s'il ne respecte pas du tout les règles, alors il faudra que la Commission européenne et les États européens prennent leurs responsabilités. Parce que, encore une fois, l'Europe, c'est aussi quand même une copropriété. Il y a des règles que tout le monde observe. On peut pas avoir un seul qui s'assied dessus. Et de ce point de vue-là, il faudra quand même qu'on arrive à trouver un terrain commun. Mais pour le moment, mon mot d'ordre, c'est dialogue, dialogue, dialogue. Et c'est ce que je fais avec mon homologue italien. Mais vous en saurez plus mercredi.
Non,
ça n'est pas simple.
Comment est-ce que vous jugez l'attitude de Monsieur Trump, qui finalement, dans ces derniers jours, continue finalement à vouloir se protéger vis-à-vis des Chinois, des Mexicains? Est-ce que vous dites finalement, il a un gros bon sens de vouloir protéger son pays? Je pense que vous ne pensez pas ça. Ou est-ce que vous dites qu'il est complètement tombé sur la tête?
Je reviens à mes compétences de commissaire chargé de l'économie. Je pense que le protectionnisme est la principale menace pour la croissance mondiale. Ce que j'observe, c'est que depuis qu'il y a cette tension entre les États-Unis et la Chine, on a un ralentissement très net qui s'est déjà produit et qui pourrait se produire davantage. Donc non, je ne peux
pas... Ça réussit quand même assez bien aux États-Unis pour l'instant, cette politique.
Je ne peux pas considérer qu'une attitude hostile au multilatéralisme, hostile au libre-échange, protectionniste, c'est une attitude qui soit bonne pour la planète. Et voyez-vous, elle n'est pas bonne non plus pour les États-Unis. Dans les chiffres,
les indicateurs économiques sont quand même plutôt bons aujourd'hui.
Les indicateurs
aux
économiques.
Alors à court terme, peut-être.
À court terme, on sait que la croissance va retomber. On ne sait pas jusqu'à quel point. Mmh. Et dans les chiffrages que nous faisons, nous disons que s'il y a une guerre commerciale États-Unis-Chine, ça aura un impact très fort d'ordre de 0,5 à 0,6 points de PIB, à la fois sur la Chine et sur les États-Unis. Donc moi, j'invite vraiment à ne pas poursuivre dans ce que je considère une politique de pompier pyromane.
Être à la fois français et commissaire aux affaires économiques et monétaires, comme vous le rappelez à l'instant. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est un poste pour les Français? Ça a quand même été compliqué au départ de vous imposer, d'avoir la crédibilité pour le faire.
J'arrive près du terme de ce mandat et je me pose toujours la question, normale d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait de différent de ce qu'un autre aurait fait? Je prétends, moi, qu'un autre n'aurait pas défendu la Grèce dans la zone euro comme je l'ai fait, aurait peut-être cédé aux conservateurs allemands qui voulaient les faire sortir. Je prétends qu'un autre aurait appliqué les règles de manière très différente et aurait privilégié les sanctions. Et je prétends qu'un autre n'aurait pas lutté contre la fraude et l'évasion fiscale comme je l'ai fait. Il se trouve que je suis français et social-démocrate et j'ai agi en français, social-démocrate européen. Tout ça me paraît parfaitement compatible.
Justement, on va parler aux Français, aux citoyens français que vous êtes, Pierre Moscovici.
Est-ce que tout ce que vous avez été capable de faire, c'est parce que vous sortez de l'ENA et des grands corps et que finalement Macron est en train de s'attaquer à ce qu'il y a de meilleur chez nous?
Pierre Moscovici?
Non. Je conçois tout à fait qu'on... Je suis pas du tout corporatiste. Je pense qu'il n'y a pas...
Il ne doit pas y avoir
de rente.
Vous êtes favorable à la suppression des grands corps de la fonction publique?
Non. Je pense qu'il y a...
Non.
Non. Attendez. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord...
Vous-même, vous venez de la Cour des comptes?
Je viens de la Cour des comptes. Qui est un
vous
des
y retournerez
vous aspirez à y retourner.
De toute façon, le 1er novembre, théoriquement, je suis membre de la Cour des comptes et j'y retournerai. Dans quel statut? Pour combien de temps? On ne sait pas.
Ah, donc voilà, on comprend pourquoi vous n'êtes pas favorable à la suppression des grands corps.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, l'ENA pose trois problèmes. Il y a un problème avant. C'est quel est le recrutement? Il y a un problème pendant. Est-ce que la scolarité permet d'élever l'esprit? Il y a un problème après. Est-ce qu'il est normal que des jeunes gens à 25 ans entrent dans des grands corps de l'État et qu'ensuite ça les poursuive toute leur vie? Ça a été mon cas. J'avais 26 ans et j'en ai 62 et je suis bientôt et je suis conseiller maître à la Cour des comptes et chaque fois que j'ai eu à y retourner, j'y étais toujours bien accueilli.
Vous auriez pu démissionner.
Et je ne l'ai pas fait.
Emmanuel Macron l'a fait par exemple
quand il est devenu président de la République.
Il a quitté l'inspection des finances.
Il y a peu de gens le font. Mais en attendant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut traiter ces trois problèmes-là. Le problème de l'entrée dans les grands corps, notamment. Est-ce que pour ça, il faut supprimer l'ENA? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut plutôt la modifier? Sans doute. Et ça, c'est à M. Thiriet de faire maintenant des propositions.
Est-ce que c'est démago d'avoir fait
en clair? Qu'il faut pas défendre
est-ce que
les
c'est un petit peu démago, dans une période anti-élite, anti-expert, d'avoir proposé la suppression de l'ENA?
Pourquoi est-ce que je disais qu'il ne faut pas supprimer les grands corps? Parce que la Cour des comptes et le Conseil d'État, la section des finances aussi d'ailleurs, indépendamment du sort de tel ou tel ou de la façon dont il y entre, ce ne sont pas que des grands corps. Ce sont des institutions de la République. On a besoin d'une Cour des comptes qui contrôle la gestion des données publiques. On a besoin d'un Conseil d'État. On a besoin d'une inspection des finances. Donc je pense que ce qu'il faut voir, c'est comment supprimer les privilèges qui sont liés à l'appartenance à ces corps. Pas les rentes, absolument. Pas les supprimer en tant que telles.
Dans l'actualité aussi, Pierre Moscovici, question douloureuse, mais où chacun de nous est renvoyé à ses convictions, à sa sensibilité. Le gouvernement conteste en cassation la décision de la Cour d'appel qui ordonne la reprise des traitements de Vincent Lambert. Est-ce que vous comprenez cette décision du gouvernement français?
Oui, je la comprends tout à fait. Je pense qu'il faut en effet que la plus haute juridiction française permette de trancher ce débat qui est un débat éthique, qui est un débat familial, qui est un débat personnel.
Mais c'est à la justice de le trancher.
C'est un débat. Oui, parce que ça a été posé devant la justice. Et donc c'est à elle, in fine, de dire le droit. La famille, on le sait, est très divisée. Chacun a par ailleurs peut avoir sa propre conviction. J'ai la mienne.
C'était à l'État de saisir la justice? De remettre.
Je crois qu'il n'était pas illogique que le gouvernement le fasse, alors qu'il voulait qu'il était une partie prenante.
Mais il y avait déjà une décision de justice précédente. Donc
oui,
l'État,
mais
à un moment donné,
il y a eu des décisions de justice contradictoires.
Dix ans que ça dure,
y compris à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. À un moment donné, il faut qu'un juge dise le droit définitif. C'est la Cour de cassation chez nous. Vous voyez, la Cour de cassation, c'est aussi un grand corps.
Il faut revoir la loi Claeys-Leonetti.
Je ne connais pas suffisamment le sujet pour ça.
Nathalie Sacric.
Le gouvernement va s'engager.
Si l'idée c'est de faire connaître par exemple ces dispositions, je trouve que c'est une excellente idée. Voilà, je ferai les miennes.
Le gouvernement a l'air de s'engager enfin, de passer à l'acte concernant la PMA. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose ou que ça risque de encore réveiller un certain nombre de clivages? Et quand tout à l'heure vous avez parlé de la campagne de François-Xavier Bellamy, on s'est demandé s'il n'y avait pas effectivement un front de droite un peu conservateur qui risquait d'être réanimé par ce genre de débat. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a poussé, repoussé. Il a raison de s'y mettre maintenant.
Écoutez, ce que je constate, c'est que M. Bellamy a fait une campagne versaillaise. J'aime beaucoup Versailles.
Trocadéro versaillais.
Une campagne tournée vers le passé, une campagne qui a essayé d'agiter toute une série de peurs et que ça n'a pas marché. Il a fait 8%. Et je pense que la PMA est un débat qui est un débat important, sur lequel j'ai une position progressiste. Et j'approuve le fait qu'on le relance maintenant. Je crois que le président de la République a raison. Et je souhaite qu'il ait une démarche ambitieuse, que le gouvernement ait une démarche ambitieuse.
C'est-à-dire ambitieux, c'est quoi? C'est rembourser très vite et tout? Et...
Encore une fois, je ne connais pas les projets de loi, mais une démarche ambitieuse. Je pense que c'est une question de société qui peut largement rassembler les Français. En réalité, ils y sont mûrs.
Et avec un volet droit aux origines ou pas? Parce que c'est ça le problème actuellement. C'est trop compliqué, on n'a pas le temps.
Non, c'est pas trop compliqué, on n'en fait pas le temps, mais... Ou plutôt,
oui. 8,5%, du coup j'en profite pour faire une parenthèse, 8,5% pour les Républicains à ces élections européennes, c'est à mettre totalement au crédit d'Emmanuel Macron ou pas selon vous?
En tout cas, il y est pour beaucoup. C'est sans doute son œuvre.
Vous dites chapeau l'artiste?
Il a bien joué. Ça, c'est incontestable. Il a fait ce qu'il fallait. Il a choisi la cible. Mais bon, en même temps, tout ça aboutit à un paysage qui est encore extrêmement ouvert. Je suis très frappé parce que avant l'élection, on disait le président de la République, il est foutu, il est mort, c'est fini, c'est terminé. Et le lendemain, on dit il est déjà réélu. Non, c'est un homme qui a une énergie très puissante, qui a un très grand talent politique, et en même temps, la situation reste encore extrêmement ouverte.
Mais la campagne pour la présidentielle a commencé.
Il y a 22%, il y en a un petit peu plus au Front National.
Vous avez des contacts avec lui, d'ailleurs? On n'en a pas parlé.
Ça m'arrive, bien
mais
sûr.
Mais le fréquent, enfin, je veux dire, c'est...
Je suis commissaire européen, et en plus, je connais bien Emmanuel Macron, j'ai pour lui beaucoup d'estime, j'approuve ses grandes lignes européennes, et donc on travaille bien ensemble, bien sûr.
Travailler avec lui. Mais vous voulez pas travailler à La République En Marche, vous voulez pas...
Mais ça, c'est autre chose. Mon temps en tant que parti politique, je vais vous dire une chose, je ne suis pas de droite et de gauche. Non. Je suis de gauche.
Le socle électoral d'Emmanuel Macron, on l'a vu, a changé. Au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, il était gauche, centre-gauche, et on en déduit qu'aux européennes, il est droite, centre-droit. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution? Qu'est-ce qu'elle dit?
Elle dit aussi ce que les Français qui votent ont pensé de cette politique. Il y a des Français de gauche qui avaient voté pour Emmanuel Macron en 2017, qui n'ont pas revoté pour Emmanuel Macron en 2017, qui ont cette fois-ci voté pour les écologistes, et un peu pour les socialistes quand même, parce qu'ils ont survécu. Il y a les Français de droite qui n'avaient pas voté pour lui, qui ont voté pour lui cette fois. Donc ça, c'est aussi la perception qu'ils en ont. Mais encore une fois, il ne faut pas juger les choses définitivement. Vous parliez de travailler avec Emmanuel Macron, mais moi je travaille avec Emmanuel Macron, je suis prêt à travailler avec Emmanuel Macron. Être dans un parti politique aussi composite, c'est pas ma tasse de thé.
Donc les Français se trompent?
Non, je dis pas qu'ils se trompent. Non, ils ont leur rationalité. Un vote n'intervient jamais par hasard. Et donc ils ont pensé cela. Simplement, le fait qu'il y ait aussi cette espèce de transfusion en 2 ans prouve que les choses sont extrêmement labiles et qu'elles peuvent changer très vite.
L'émission se termine et vous aurez l'occasion de poursuivre cette conversation avec Virginie Malingre, qui va être la correspondante du Monde, du journal Le Monde, à Bruxelles.
Mais quelque temps. Serez...
Oui, mais comme on ne sait pas quand se termine votre mandat et quand vous quitterez Bruxelles, ça risque de durer encore un peu de temps.
Je ne quitterai jamais complètement Bruxelles, car l'Europe restera pour le coup dans mon cœur.
Merci Pierre Moscovici d'avoir été notre invité. Et puis nous tenions à rendre hommage à Michel Serre, dont on apprenait le décès hier soir. Il nous avait fait l'amitié d'être notre invité la semaine dernière. Nous pensons tous aujourd'hui à son élégance, à sa dignité, à sa générosité pour ne rien laisser paraître de sa maladie. C'était le dernier esprit encyclopédique de notre temps. C'était aussi un visionnaire. C'était l'un des premiers à réfléchir à notre monde numérique et à ceux qui s'inquiétaient, par exemple, de voir des adolescents s'abîmer dans le virtuel. Voici ce qu'il répondait.
Il y a quelque temps, un certain Cervantes, vous avez entendu parler sans doute, a écrit un livre majeur, extraordinaire, qui s'appelle Don Quichotte. Bon, qui c'est Don Quichotte?
De la Manche.
C'est Don Quichotte, c'est un homme ivre de livres, puisque devant lui, il ne voit rien de réel, il ne voit que des représentations des romans de chevalerie. Mm-hmm. Par conséquent, il est ivre de livres. Et voyons, mais c'est pas pareil? C'est exactement la même chose que de dire tu es ivre. Quand j'étais petit, ma grand-mère levait les bras au ciel en disant « Ce Michel ne verra jamais le réel, il est tout le temps dans les bouquins. » Voilà.
Et on imagine Michel Serre, enfant avec son regard espiègle, et qu'il me soit permis d'évoquer un souvenir personnel et ma première rencontre avec Michel Serre, ou du moins avec l'un de ses livres, un chef-d'œuvre, le système de Leibniz et ses modèles mathématiques. C'était au cours d'une recherche en bibliothèque et je remercie le hasard. Cette découverte fut pour moi une révélation et on trouve dans ce livre une citation de Leibniz qu'on croirait écrite pour décrire l'œuvre de Michel Serre. C'est à peu près comme lorsqu'on jette dans l'eau plusieurs pierres à la fois, dont chacune fait des cercles qui se croisent sans se détruire, mais quand le nombre des pierres est trop grand, les yeux s'y confondent. Fin de citation, et Michel Serre ajoutait « Il faut tenter de se perdre dans cette forêt fluide. » Cette forêt, c'est le trésor que nous laisse Michel Serre en héritage, et au nom de toute l'équipe de Questions Politiques, je veux saluer sa famille et ses proches. Qu'il repose en paix. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les trois et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.